Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Entre le 6 janvier et le 30 juin de l'année 1955, les auditeurs de la chaîne parisienne, station de la radiodiffusion française, purent écouter, chaque jeudi, entre 20h50 et 21h10, une série de 25 entretiens de Jean Giono, menés par Tao Samrouche. L'écrivain y racontait les personnages qui ont peuplé son enfance et sa jeunesse, personnages que l'on ne retrouve pas dans ses romans, mais dont on imagine, à l'écouter, qu'ils ont sans doute pu l'inspirer. Prenez par exemple, dans la toute première émission de cette série, l'histoire de la mère Bijou et de ses deux fils. Peut-on encore vraiment parler de souvenirs dans ce cas? N'est-on pas déjà, dès les premières phrases prononcées par Giono, plongé dans un merveilleux roman? Jugez vous-même, à l'écoute de cette émission, diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 6 janvier 1955.
La radiodiffusion télévision française présente... Propos et récits de Jean Giono. Improvisation recueillie et enregistrée à Manosque par Taos. Réalisation de Marcel Sicard.
Et voici le grand jour arrivé. Je suis à Manosque, en face de vous, cher Giono. Dans ce bureau, rien n'a changé. C'est une grande joie pour moi. Et cette fois, rassurez-vous, ce n'est pas pour vous interroger sur votre vie et votre œuvre, non. C'est pour vous demander simplement de consentir à perdre momentanément de vue ce livre que vous écrivez depuis bientôt 2 ans, je crois. Ce bonheur fou qui est la suite du Hussard. Je suis là pour vous demander de nous raconter librement vos souvenirs et aussi ces histoires que vous improvisez pour tous ceux qui ont le privilège de vous entendre le soir quand vous fumez votre petite pipe.
Voilà la pipe, Taos. Faites-moi passer le bois d'allumette qui est là près de vous, tenez.
La voilà. Tenez.
Merci.
Oui, cette petite pipe que vous aimez à fumer le soir après votre journée de travail. Combien serait heureux d'être à ma place ce soir.
Sautons dans le sujet tout de suite, voulez-vous? Du fauteuil où vous êtes assise, vous voyez un grand morceau de pays. Ce sont des collines à perte de vue, couvertes de forêts de chênes verts. Regardez bien, depuis les murs de Manosque que vous avez sous les yeux devant vous au premier plan, jusqu'à ce petit nuage, c'est-à-dire à plus de 50 km d'ici, c'est le désert. À peine un village. Encerclé par les bois, il a quelques vignes, il en vit, il a des troupeaux, une fontaine, l'ombre des yeuses, et un emploi du temps dont l'époque moderne n'a plus idée. Le reste du pays est tout en vallons sauvages. C'est la solitude parfaite. Quand je gardais les moutons avec le père Massot, nous enfoncions là-dedans. Il fallait aller très loin parce que nous n'avions pas des pâturages assez près. Et d'ailleurs, tous les bergers venant dans ces mêmes lieux, il fallait s'éloigner le plus possible des endroits qui étaient fréquentés par nos compagnons. Au bout de 4 ou 5 jours, nous nous trouvions au grand large dans ce pays désert, et généralement dans un endroit où on voyait apparaître alors des yeuses, des chênes verts, et finalement, au bout encore d'un jour ou deux, un petit hameau qui s'appelait Berne. Quand nous arrivions généralement là, vers le soir, vers les 4 heures, Massot me disait, si tu veux goûter, va voir la mère Bijou et demande-lui un bol de lait. J'allais voir la mère Bijou, elle me donnait un bol de lait et une tranche de pain, et je goûtais à côté d'elle. La mère Bijou était une femme qui me remplissait toujours d'admiration. D'ailleurs, elle avait une légende. C'était une femme extraordinairement forte, forte de force physique. Elle avait accompli des prouesses de force physique que les hommes eux-mêmes ne pouvaient pas accomplir. Elle était d'ailleurs la fille d'un bonhomme qui avait été Hercule de foire et qui pouvait faire des choses extraordinaires. Enfin, ce qu'on disait surtout que la mère Bijou faisait, c'était une espèce de lutte directe avec les représentants de la loi. Elle avait été assez belle quand elle était jeune. Elle s'est mariée avec un petit personnage tout maigre, tout mou, qui s'appelait le Félix et qui marchait tout doucement sur des espèces de semelles de cordes. C'était véritablement l'image même de la mollesse. Par une sorte de paradoxe que je ne peux pas m'expliquer, ce Félix avait été condamné pour viol à 2 ans de prison. On se demande comment, on se demande pourquoi. Et elle, à sa sortie de prison, la bijoute, s'était mariée avec ce Félix. Elle en avait eu 3 enfants. Un qui était mort, et un autre, Hubert, qui était resté vivant. Longtemps après, peut-être une 15aine d'années après, elle en avait eu un 3e, qui était le cadet. À l'époque où elle avait eu ses enfants, et où le premier était encore en bas âge, il y avait dans la région une grande contrebande d'allumettes. C'était l'époque où on faisait la contrebande d'allumettes. Non pas que les allumettes de l'État aient coûté très cher, puisque généralement on avait une boîte d'allumettes pour 2 sous, mais on avait plaisir à frauder, et on fraudait les allumettes. Alors les marchands d'allumettes de contrebande vous apportaient des sortes de petits billots de bois, fendus jusqu'aux 2/3, en quadrilatère. Et ils trempaient cette sorte de peigne dans du soufre et dans du phosphore, et on avait ainsi un peigne d'allumettes qui remplaçait les allumettes de la régie. Et les gendarmes traquaient soigneusement les marchands d'allumettes de contrebande. Le Félix était naturellement, et d'une façon fort connue, un marchand d'allumettes de contrebande. Je l'ai vu quelquefois, lui, et puis, c'est pas lui que j'ai vu, ce n'est pas exactement lui que j'ai vu, c'est un de ses amis qui faisait encore la contrebande d'allumettes au moment où j'ai pu le constater. Moi, il venait encore dans la région avec une espèce de petit sac de colporteur. Il arrivait, il vendait ses allumettes à mon père, et ma mère aimait beaucoup ses allumettes de contrebande qui lui revenaient d'ailleurs beaucoup plus cher que les allumettes de la région. Enfin, voilà mon Félix qui venait le contrebande des allumettes. Il avait par conséquent chez lui du phosphore, il avait du soufre, et c'était très difficile d'abord à manier et ensuite à cacher. Et un soir, au moment quand la maison était fermée, et dans la cave de ce petit hameau perdu au fond des bois, les 3 contrebandiers qui faisaient des allumettes étaient en train d'en faire. La mère bijoute était là-haut dans sa cuisine. Lorsque on frappe à la porte, 2 ou 3 coups assez violents, et on se rend compte que ça pouvait être les gendarmes, et en effet, c'était eux qui disent « Ouvrez d'une façon fort gaillarde, la mère Félix va ouvrir », et en effet, c'était les 3 gendarmes de la brigade de Pertuis qui arrivent là et qui s'installent, qui disent « Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous savons qu'on fait de la contrebande d'allumettes, et nous voulons visiter la maison ». La mère Félix, qui était un personnage qui était assez calme, et qui ne s'emballait pas, leur dit, ben écoutez, messieurs, vous allez quand même bien pouvoir boire un peu la goutte.
Pardon.
Les gendarmes, sans dire oui, ne disent pas non. La mère Bijou va chercher dans son placard 3 petits verres, les aligne sur la table, et alors c'est là que se place le geste qui lui a ensuite valu une très grande légende. Elle prit une bouteille de 3 litres d'eau de vie par le col de la bouteille, comme on fait d'ordinaire, et sans trembler, en renversant simplement la bouteille avec son poignet, elle remplit les 3 petits verres ras bord, sans trembler. À la suite de quoi, les 3 gendarmes, ayant salué, s'en allèrent tranquillement, sans pousser plus loin la perquisition. À la suite de tout ça, vous voyez, elle avait la très grande légende s'installa tout aussitôt. On dit que cette femme, d'abord, avait hérité de son père cette force physique formidable, mais surtout, ce qui arriva à ce moment-là, c'est que l'aîné, Hubert, qui était d'ailleurs à ce moment-là seul, puisque le premier fils était mort, l'aîné, Hubert, commença à faire à ce moment-là le travail de maquignon, et allant sur les foires, il eut lui aussi l'occasion plusieurs fois de montrer sa force. Il était aussi formidablement râblé. Celui-là, je l'ai connu, c'était un petit homme râpelot avec de larges épaules, un peu assez gourd de mouvement, mais vif d'allure, l'œil assez inquiet, qui allait toujours d'un côté à l'autre comme un papillon. Enfin, un personnage assez curieux. Il avait des hardes de chevaux qu'il menait aux foires, et il s'installait par conséquent dans cette espèce de pays avec un commerce assez amusant et assez romantique. Quand il eut un frère, il était déjà lui assez âgé, puisqu'ils avaient 16 ans de différence. Il commença à regarder avec assez de curiosité ce petit personnage qui, de nouveau, était bercé par les bras de sa mère et qu'on caressait beaucoup, parce que la mère Bijoute était quand même une femme très tendre. Moi, je me souviens quand elle me donnait mon café, quand elle me donnait mon lait, que le père Massot me faisait aller réclamer chez elle, c'était toujours de grande tendresse. Elle me disait, Jeannot, amène-toi ici. Elle me donnait un verre de lait, elle me le passait dans une passoire, parce qu'elle savait que je craignais la peau, des fois, il y avait des poils, parce que quelquefois, elle mélangeait le lait de chèvre, le lait de vache. Alors, il y avait des poils, j'aimais pas beaucoup ça, elle me le passait. Et elle me taillait une grande tartine de pain, et elle avait toujours des gestes très tendres, ce qui surprenait, parce qu'on se rendait compte, malgré que cette femme ne soit pas taillée en force comme une Hercule, on se rendait compte que cette femme avait une très grande force physique. N'était-ce que dans les mouvements qu'elle faisait pour prendre sa cafetière, ou quand elle s'occupait de son feu, ou quand même quand elle vous caressait, car je me souviens que quelquefois elle m'avait caressé la tête et les cheveux, et je sentais que sa main était fortement pesante. Enfin, je n'aurais pas aimé être un garçon qu'elle aurait corrigé. Elle n'avait d'ailleurs jamais corrigé ni Hubert, ni le jeune, dont je ne me souviens plus le nom, mais je me souviens du surnom que lui donna son aîné à l'époque où l'aîné s'étant marié, étant devenu un homme, le frère était devenu, lui, un jeune homme. Il l'appela mon cadet. Et dans ce titre de mon cadet, dans ce nom, il y avait une très grande tendresse lui aussi. Ce frère, il l'aimait profondément. Il l'aimait tellement que il l'aimait beaucoup plus que sa famille propre. Il n'avait pas d'enfant, lui, mais il avait une femme qui habitait la maison à côté, dans le petit hameau. Il l'aimait énormément, il l'emmenait avec lui dans ses balades pour aller aux foires. Et il lui avait acheté un petit cheval arabe très fougueux, avec lequel le jeune garçon faisait des cavalcades à travers la forêt. Lui, il le menait aussi, et très souvent, à ce moment-là, mon père m'en a parlé, ceux qui allaient se promener dans les endroits, dans cette forêt de chênes verts, dans laquelle j'allais, moi, garder les moutons du père Massot, très souvent, les gens avaient rencontré ce couple de beaux cavaliers qui était représenté par le gros Hubert, énorme sur son cheval qui était lui-même très fort, et le petit mon cadet qui cavalcadait sur le petit poney à côté de lui. Ainsi s'était organisée autour de la Bijoute une espèce de vie à la fois paysanne et romantique. À la fois paysanne parce qu'il restait, lui, Hubert et sa famille, et la mère Bijoute et le mon cadet faisaient cultiver quand même la forêt, faisait quelques petits labours pour avoir du blé, et très romantique parce que à certains jours, certains samedis par exemple, Hubert préparait le cheval de mon cadet, préparait le sien aussi, et tous deux s'en allaient au devant de la harde de chevaux pour aller vendre dans les foires, soit à Bannon, soit à Apt, soit à Pertu. Hubert avait acheté à mon cadet une magnifique selle. Une magnifique selle qui avait été une longue histoire, car il était allé l'acheter à Marseille. Il était allé acheter à Marseille une selle anglaise. Il avait entendu parler de selle anglaise sur les foires, et il avait cherché tant qu'il n'avait pas trouvé une selle anglaise pour son petit frère. Une magnifique couverture aussi. Et le petit garçon, qui à ce moment-là, au moment où je place l'histoire, avait à peu près, disons, 16 ans, ou 17 ans, 18 ans,
Oh, c'était déjà un bel adolescent.
Ah, c'était déjà un adolescent assez bien, n'est-ce pas? Hubert avait à peu près une quarantaine d'années quand la grande aventure a commencé. Et la grande aventure, c'est la suivante. Ils étaient allés à la foire de Carpentras. C'était un jour de Mistral. Il n'y avait pas grand monde. Ils s'étaient installés à l'endroit où on installait les hardes de chevaux. Et vers les 11 h... il n'y avait pas eu beaucoup de clients, ils avaient vendu à peine une bête ou deux. Ils allaient s'apprêter à partir lorsque Hubert voulut aller acheter du pain pour pouvoir manger en route avec son frère. Il pénétra donc par les petites rues dans la vieille ville de Carpentras, et comme il se trouvait aux abords d'une petite place, il entendit des cris, et il vit venir vers lui une espèce de dragon ailé, qui était un cheval emballé. Le cheval d'un paysan, un cheval blanc, m'avait-il dit, un cheval blanc emballé qui s'était précipité sur les gens et qui courait à travers la rue et qu'il fallait arrêter de toute façon parce que les gens tombaient devant lui et il pouvait causer énormément d'accidents. Mon cadet, Hubert, à ce moment-là, se précipita sur le cheval et, sans réfléchir, d'un grand geste large, avec son poing qui ressemblait à une courge, donna un coup de poing au cheval et assomma le cheval.
Il l'a tué net?
Il l'a assommé, il l'a tué net, le cheval s'est mis à saigner, il a tué le cheval d'un coup de poing. À partir de ce moment-là, vous imaginez, c'est devenu l'homme qui avait tué un cheval d'un coup de poing et par conséquent un homme d'une renommée considérable. Ajouté qu'à sa légende s'ajoutait la légende de sa mère, c'est-à-dire qu'on disait qu'il était le fils de cette femme qui avait servi les gendarmes en tenant à bout de poignet une bouteille de 3 litres d'eau de vie sans trembler. À ce moment-là, c'est devenu une sorte de personnage épique et on ne parlait que de sa force. Sa force, d'ailleurs, qu'il exerçait pendant dans son métier, soit quand il allait chercher, par exemple, des charretées de bois, soit quand il allait chercher de la feuille à une espèce d'endroit extraordinaire qu'on appelait les faillards de Gavari, où il y avait toujours une grande litière de feuilles de hêtre sèches, où il allait charger des charrettes. Enfin, chaque fois qu'on avait besoin de quelqu'un de très fort, on allait appeler Hubert, et Hubert arrivait, et la bijoute s'avançait de l'endroit où allait s'exercer la force de son fils, et regardait avec un petit air narquois, se disant en elle-même, moi j'en ferai autant. Mais il y avait généralement aussi autour de ces gens-là, le frère, mon cadet, qui venait regarder, et qui, lui étant beaucoup plus jeune, ne s'essayait pas à ces genres de force.
Il admirait, quoi.
Il admirait. Non seulement il admirait, mais... Je ne sais pas s'il admirait d'une façon extrêmement détachée.
Il enviait, il enviait déjà.
Peut-être enviait-il. En tout cas, il regardait et il prenait conscience de la grande force de son aîné. Pour l'instant d'ailleurs, même s'il enviait, il ne le savait pas. Car il adorait son frère. Ce frère qui avait pour lui tant de gentillesse, qui organisait autour de lui la vie de façon à ce qu'elle soit extrêmement succulente, il l'adorait, il l'aimait beaucoup, il ne s'en séparait pas. À l'époque du service militaire, mon cadet fut incorporé au 159e régiment d'infanterie à Briançon. Hubert, lui, avait fait son service au Spahi, en Afrique. Mais au moment de partir, pour cette ville qui, vue de cette forêt de chênes, paraissait extraordinairement lointaine, imaginez, Briançon était une chose... difficile à comprendre pour des gens qui habitaient du côté de Beaumont. Hubert ne put jamais consentir à laisser son frère partir tout seul et il l'accompagna. Et à Briançon, il s'arrangea pour s'engager dans une espèce d'entreprise de remonte de mulets pour les batteries alpines. Et si bien qu'il resta pendant les 2 ans de service militaire à côté de son frère et qu'un beau jour, de la caserne de Briançon, on lui rendit un beau bel homme, bien fait, et qui maintenant avait dépassé d'une façon définitive l'âge de la jeunesse.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Propos et récits de Jean Giono. Improvisation recueillie et enregistrée à Manosque par Taos. Réalisation de Marcel Sicard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 6 janvier 1955. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.